Sunderlight Production.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste en ce début d'année 2022. Camille, qui co-anime avec moi la capsule santé, et JP, qui co-anime avec moi dans l'atelier, se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur en cette année 2022. Que tous vos projets se réalisent. Et surtout, que les aventures soient belles. Aujourd'hui, vous allez tout savoir sur le sommeil, en ultra-distance. Ou plutôt, en comprendre les mécanismes, puisque même en ce début d'année 2022, le sommeil dans les sports au long cours, comme dans le trail, la voile ou le cyclisme ultra, ont encore tant de mystères et d'énigmes. Mon invité, Rémi Urdiel, en connaît un rayon. Maître de conférences à l'université du littoral Côte d'Opale, expert du sommeil en ultra-distance, en ultra-endurance, chercheur et skipper. Il a notamment conseillé le navigateur Thomas Ruyant, Link Out, sur le dernier Vendée Globe. Il est à l'origine du projet Big Sleep Data, ou comment analyser le sommeil des sportifs poussant les limites de leur sommeil à l'extrême pour appliquer le fruit de ses recherches au grand public. Comme vous allez l'entendre, nous sommes totalement alignés avec Rémi durant cet épisode sur le fait qu'un sportif fatigué est un sportif en danger. Je vous souhaite une bonne écoute.
Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer.
Bonjour Rémi.
Bonjour.
Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. J'ai une petite pensée pour Pascal qui nous a mis en relation, finisher de la Race Cross France, donc qui en tout cas connaît le sujet sur lequel on va parler, puisqu'on va parler du sommeil aujourd'hui. Et j'ai en face de moi, en tout cas par écran interposé, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais un spécialiste du sommeil. Donc justement, Rémi, pour pouvoir positionner tout de suite le personnage, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui nous sont fidèles ou ceux qui découvrent le podcast ?
Je suis Rémi Urdiel, enseignant-chercheur à l'Université du littoral Côte d'Opale. C'est une petite université qui se trouve à Dunkerque. On dit université à taille humaine. Et je suis enseignant en STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives. Mon domaine de recherche concerne l'adaptation des sportifs aux environnements extrêmes et en particulier en ce qui concerne la gestion de leur sommeil, la gestion du risque, de la fatigue, donc dans les environnements extrêmes, et les environnements sportifs, bien entendu.
Alors, on va faire le lien tout de suite avec l'ultra-distance, hein, que ce soit le cyclisme ou la voile, on en parlait juste avant hors micro, parce que ça a quand même un impact énorme, ça interroge, je crois même que Patrick Gilles, qui a eu l'initiative de lancer une première... comme une réunion autour du sommeil qui va se dérouler en février. Donc, je vous invite à suivre ça sur sa page. C'est Patrick Gilles de Cyclosportissimo. Moi, ça fait longtemps, effectivement, que je voulais avoir un spécialiste pour échanger. Et Pascal Houdoc nous a gentiment mis en relation. Donc, déjà, si on pouvait positionner un petit peu le rôle du sommeil dans la vie de tout un chacun, c'est-à-dire pourquoi il faut dormir. Je dis ça d'autant plus que... je travaille, moi, personnellement, très, très tard et je me lève déjà fatigué le lendemain matin. Donc, j'ai bien conscience que j'ai quelque chose à régler avec le sommeil. Mais si tu pouvais nous expliquer de manière très, très simple, quel est le rôle du sommeil, quel est son rôle dans notre santé, en fait, hein.
Ouais, alors déjà, c'est extrêmement important d'utiliser aussi ce terme de santé. C'est-à-dire que le sommeil, il est là pour... sa fonction principale, c'est de réguler notre état de santé, en fait, puisque quand on est éveillé, eh bien, on va avoir de la dépense énergétique, on va quand on fait du sport, on va un peu abîmer nos muscles, on va dépenser cette énergie qui fait fonctionner nos neurones, puisqu'on a toujours besoin finalement de réfléchir et d'avoir des activités neuronale intense, et le sommeil va être là pour rétablir l'équilibre perdu, en tout cas va permettre de rétablir l'équilibre dont on a besoin pour pouvoir avoir un éveil de bonne qualité. Donc dans le sommeil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir un nettoyage, en particulier au niveau du cerveau, de toutes les toxines qui sont libérées par le fonctionnement des neurones, et puis on va avoir aussi la réparation tissulaire, on va avoir des équilibres hormonaux qui vont pouvoir être réalisés, et tout ça pour maintenir notre état de santé dans un niveau optimal. Donc évidemment, quand on ne dort pas suffisamment, bien du coup on crée des déséquilibres qui vont avoir un impact à court, à moyen et à long terme sur notre santé.
Alors, quelles pourraient être justement ces répercussions je trouve ça super intéressant, parce que quels pourraient être les symptômes à court terme, à moyen terme et les risques à long terme? Si on pouvait mettre des mots sur ça, ça serait quoi?
Alors, on va donc distinguer deux types de manque de sommeil. Hein. On va distinguer le manque de sommeil aigu, on va appeler ça finalement la privation de sommeil, et puis on va distinguer avec la restriction chronique de sommeil, c'est-à-dire le manque chronique. Par exemple, ne dormir que 6 heures par nuit pendant un certain temps. Et là, les effets sont un petit peu différents en fonction de cette restriction de sommeil. C'est que lorsque c'est aigu, donc si on fait une nuit blanche, par exemple, ou on fait deux nuits blanches, on va d'abord avoir une diminution des capacités cognitives, c'est-à-dire des capacités de notre cerveau à avoir un fonctionnement correct. Donc, on va avoir des temps de réaction qui s'allongent. On va avoir une instabilité de l'humeur, on va avoir des capacités de réflexion qui sont plus faibles. Donc ça, c'est le côté très aigu.
Ça, c'est ce que tu décris, excuse-moi, mais ça correspond à un participant d'une épreuve ultra, que ça soit dans le trail, que ça soit par exemple quelqu'un qui va faire un UTMB, ben, il va courir entre 24 pour les meilleurs et plusieurs heures derrière pour les suivants, mais ça représente une épreuve ponctuelle, ou une Race Across France, ou une Transat Jacques Vabre. Donc pendant quelques nuits, quelques jours, c'est aigu, et effectivement, les personnes qui l'ont déjà pratiqué reconnaissent les troubles que tu as évoqués. Et qu'en est-il sur ce qui est chronique ?
Eh bien, dès que ça va être chronique, en fait, on va avoir des altérations qui sont beaucoup plus profondes. On parlait tout à l'heure de régulation hormonale, par exemple. Le fait de moins dormir va, par exemple, poser des troubles de la régulation de l'appétit. Et c'est pour ça qu'on voit, par exemple, que les gens qui dorment moins ont plutôt tendance à manger de la junk food et vont avoir une facilité à prendre du poids. On va voir aussi qu'on a une augmentation de la tension artérielle. On va avoir des problématiques donc cardiovasculaires qui peuvent s'installer, des facteurs de risque de cancer. Bon, voilà. Alors là, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus chronique. C'est pas quelque chose qu'on voit évidemment à l'échelle de Race Across France ou à l'échelle d'une course même sur un Vendée Globe.
Donc là, ce que tu expliques, c'est plus une hygiène de vie quelque part.
Et oui, exactement, c'est ça. Et alors après, quand on s'adresse aussi à des sportifs, puisque là, c'est aussi la particularité des sports d'ultra-endurance, c'est qu'on s'adresse, on a vraiment des gens qui sont des pratiquants d'activité physique régulière, bien entendu, pour pouvoir être performants juste réaliser le défi. Et donc, on sait aussi que l'activité physique va contrebalancer aussi les effets négatifs, c'est-à-dire que pour le coup, si on parle de troubles cardiovasculaires, du coup, un sportif, il est quand même moins sujet à ces problématiques-là. Bon, donc, je crois qu'en ultra, on observe des choses qui sont vraiment très aiguës, et ça, par contre, là, il n'y a pas de possibilité finalement de faire autrement. Si on ne dort pas, on va avoir des troubles assez sévères qui peuvent aller jusqu'à des hallucinations. Et par contre, les aspects chroniques, c'est quand même a priori moins visible en ultra, mais voilà, il y a des épreuves d'extrêmement longue durée. On parle par exemple du Vendée Globe à la voile, hein, c'est vraiment de l'ultra-endurance. Alors là, il n'y a rien qui dépasse finalement cette durée-là. Et là, on a encore un peu de mal scientifiquement aussi à savoir ce qui se passe à l'arrivée. Il y a quelques recherches qui ont été faites là-dessus, mais on a un peu de mal à pouvoir caractériser la fatigue et l'effet du manque de sommeil.
Est-ce que on parle d'ultra vélo ? Est-ce que des études ont été faites sur ça ?
Oui, il y a quelques études qui ont été faites sur Race Across America.
Bien sûr.
Alors pas beaucoup, hein. C'est quand même assez peu documenté finalement. Il y a quelques études.
Il y a des Suisses qui l'avaient fait, je crois, il y a 3 ou 4 ans.
Alors il y a une étude américaine qui a été faite, je crois, 2005 de mémoire. Et puis après, il y a des Suisses effectivement de Lausanne,
oui,
qui avaient travaillé là-dessus. Hein. J'ai eu la chance de la rencontrer, donc j'ai pu suivre un peu leur aventure.
Ils ont travaillé avec un groupe de 8 sportifs, je crois, et ils ont pris, de mémoire, pris des sportifs qui n'avaient pas forcément d'expérience en ultra, voire même qui n'avaient pas fait de vélo du tout. Ils les ont préparés pour mesurer l'impact justement de cette épreuve sur le corps humain.
En fait, oui, ils avaient inclus dans leur équipe, dans leur team, en fait, une jeune femme qui était sédentaire. Et du coup, ils ont accès à un programme d'activité physique spécialement dédié à la participation de cette nana vers Race Across America. Et donc, j'ai eu la chance de l'accueillir à l'université. D'ailleurs, elle est venue en conférence auprès des étudiants. C'était très sympathique de nous raconter, en fait, de l'intérieur, ce qu'elle avait vécu dans sa préparation pour ce défi hors norme.
Alors là, on parle d'ultra vélo. C'est vrai que la Race Across America, c'est dans l'ultra distance l'épreuve reine. Hein. J'ai eu la chance, moi, de la faire à plusieurs reprises. Et c'est à cette occasion que j'ai eu des hallucinations, puisque dans ton sommeil, dans la privation de sommeil, tu vas très, 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 très loin, au point que chaque moment où tu mets le pied à terre sur la fin de l'épreuve provoque un endormissement, en fait. C'est-à-dire que ton corps, dès que tu n'es plus en mouvement, tout se met en veille, en fait. Ton corps se déconnecte complètement et tu t'endors au feu rouge, tu t'endors au carrefour. En tout cas, pour moi, j'ai vécu cette épreuve, cette privation de sommeil, comme une véritable torture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai beau essayer de mettre toutes les sonneries possibles sur mon iPhone, tout me traumatise. C'est-à-dire que chaque phase de réveil me projette très très souvent à cette course où il fallait que je me lève, en fait. J'avais pas le choix, il fallait que je me lève. Et c'était très très douloureux. Le manque de sommeil, c'est d'ailleurs été un moyen de torture hein, pendant certaines guerres. C'est terrible, terrible. Le manque de sommeil te fait sauter tous les filtres. Et t'as plus du tout de la gestion des émotions, c'est très compliqué derrière, très très compliqué.
Ouais, tout à fait. Bah voilà, là on est vraiment dans une dimension extrême. Hein. C'est ça qui fait aussi la particularité de ce sport et des sportifs hein, qui sont des gens qui sont capables d'aller se mettre dans ces états-là. Moi, je suis toujours subjugué par cette capacité que l'être humain il a de repousser comme ça jusqu'à l'extrême limite ses capacités. Maintenant, la question. Elle est de, sans être moralisateur, mais je me pose quand même toujours la question de l'aspect sécurité d'une part, qui est quand même important à prendre en compte. Et puis après, ce qu'on commence à regarder, nous, sur des épreuves de course à pied en particulier, parce que c'est plus facile pour nous de mesurer les choses là, c'est quand même qu'en ayant une stratégie, des stratégies de sommeil qui seraient de prendre un peu de sommeil avant d'arriver dans des états extrêmes comme celui que tu viens de décrire, finalement, on se rend compte que la performance, elle n'est pas du tout mise en cause, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que arriver à des états d'hallucination me semble aujourd'hui un peu comme un footballeur qui a une crampe, si tu veux. C'est-à-dire que il n'est pas garanti que tu sois performant, parce que comme tu l'as décrit aussi, tu es extrêmement somnolent. L'hallucination est un endormissement involontaire. En fait, c'est l'intrusion des rêves dans l'éveil, donc c'est un cerveau qui ne sait plus trop où il habite. Et tout ça, c'est accompagné d'hypersomnolence. Donc, je dirais que quand on est somnolent, on n'est plus trop maître de la situation. Donc, il y a un aspect sécurité, à mon avis, qu'il convient de rappeler. Et puis après, on a aussi, dans la somnolence, est-ce que tu pédales aussi vite, finalement, et aussi bien que quand tu es plus en forme? Est-ce que tu as une bonne perception de ton état? Est-ce que tu t'alimentes correctement?
Très clairement, non. Voilà. Moi pour te donner un exemple, aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'en fait, je dormais sur le vélo. J'étais endormi, comme tu l'as dit, hein, les yeux ouverts peut-être, mais endormi par ma... En fait, je me suis rendu compte par ma respiration. C'est-à-dire que j'avais une respiration qui était la même quand un dimanche après-midi, tu fais une bonne sieste sur le canapé, tu vois ce que je veux dire? Et j'avais cette respiration très lourde qui correspond à celle d'une phase d'endormissement. Et très clairement, je me suis dit, mais en fait, Arnaud, tu dors en fait là, tu es en train de dormir sur ton vélo. Et c'est très spécial. Alors, il y a le côté effectivement sécurité, ça, on va en parler, j'ai prévu d'en parler juste après. Mais si tu peux nous expliquer, Rémi, physiologiquement, comment savoir de combien d'heures de sommeil on a besoin? Parce que c'est difficile de dire... Alors moi, notamment, tu vois, je suis quelqu'un... je suis très porté sur les datas. Je suis équipé d'un bracelet Whoop qui me dit effectivement, là, tu es en orange, là, tu es en vert, là, tu es en rouge. Alors, je reconnais, je suis très souvent dans la zone orange, c'est-à-dire à peu près à 55% de ma phase de récupération. Donc, je n'ai pas une bonne récup parce que je ne dors pas assez. Mais est-ce que j'ai besoin de 8 heures, de 6 heures, de 7 heures de sommeil? Comment ça, on peut le déterminer? Alors, tu as le ressenti, bien évidemment, qui fait qu'avec l'âge, tu sais de combien d'heures à peu près, sans être précis, tu as besoin. Mais comment savoir physiologiquement de combien d'heures tu as besoin de repos pour être au maximum de tes capacités?
Alors bon, c'est une question qui est difficile. On va rappeler quand même que les recommandations, et si elles sont faites, c'est parce qu'on sait que ça fonctionne bien. Hein, les recommandations pour un adulte, hein, c'est 7-8 heures. Hein, donc ça, on sait que dans ce cas-là, on a des capacités optimales. Ensuite, donc savoir de combien on a besoin, je dirais que il n'y a pas photo, c'est de ça dont on a besoin. Maintenant, la question, elle peut être posée un peu différemment. C'est finalement, jusqu'à quelle limite je suis, jusqu'à quelle quantité de sommeil, finalement, je reste globalement performant. Et là, on commence à avoir un peu de réponse. Alors, il y a des différences interindividuelles qui sont extrêmement importantes. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, on voit bien que jusqu'à 6 heures, aux alentours de 6 heures, on est capable de s'adapter. Finalement, notre cerveau va finir par… On est fatigué, mais on va finir par s'adapter à notre vie quotidienne, même avec 6 heures de sommeil. Mais c'est que de l'adaptation. Ça veut dire qu'on est quand même à un niveau sous-maximal. Alors, comment on peut mesurer ça? Comment on peut savoir? Ça, c'est quelque chose qui est assez difficile parce que on peut monitorer. Moi, je monitore, par exemple, les temps de réaction parce que c'est un très bon révélateur, finalement, des capacités. C'est-à-dire que si les temps de réaction commencent à s'allonger, c'est là qu'on va commencer à dire qu'il n'y a pas assez de sommeil. D'un point de vue, de toute façon, très pratique, puisque chacun peut faire chez soi, c'est Michel Desjoyeux qui disait ça, qui faisait des sudoku pour pouvoir savoir où il en était de son état. Si on est capable d'avoir en fait des capacités de réflexion et des capacités cognitives relativement bonnes, on va dire que le sommeil est suffisant. Maintenant, c'est un vrai challenge pour savoir de combien de temps on a besoin. Pour moi, il y a deux situations. Il y a notre vie de tous les jours, et dans ce cas-là, il faut s'approcher le plus possible des recommandations parce qu'elles sont bonnes, ces recommandations aux alentours de 7-8 heures par 24 heures. Et puis après, il y a aussi la participation à des épreuves d'ultra ou des périodes qui sont très sollicitantes. Et dans ce cas-là, il faut considérer que c'est la théorie du moins pire, c'est-à-dire qu'on va dormir ce qu'on peut en fonction de ce qu'on a à faire et on va éventuellement faire des siestes. J'imagine que c'est dans ta liste de questions, mais éventuellement de faire des siestes pour pouvoir justement garder un niveau de performance relativement bon et ne pas avoir de troubles de somnolence. Moi, je pense qu'un repère qu'on pourrait dire, qu'on pourrait utiliser, c'est que si on est plus somnolent, si on est plus souvent somnolent que ce petit coup de pompe qu'on a à 14 heures ou après manger, là, il faut commencer à s'inquiéter. C'est-à-dire qu'avoir un coup de barre après le déjeuner à 14 heures, comme tout le monde le connaît, hein, finalement, bien, disons que c'est à peu près naturel. Si on commence vraiment à ne plus pouvoir rester éveillé naturellement, même à 14 heures, c'est quand même qu'on commence à accumuler une bonne dette de sommeil si on est vraiment obligé d'aller faire la sieste. Et puis après, si on a d'autres périodes de somnolence entre le matin et le soir, c'est-à-dire si on a des périodes de somnolence, d'hypersomnolence à 11 heures du matin ou à 17 heures ou 18 heures le soir, là, c'est vraiment que je pense qu'on a vraiment tapé dans les réserves un peu trop.
Et est-ce que la privation de sommeil a une mémoire? Ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'on peut s'entraîner dans le cadre d'une épreuve qui arrive, par exemple? Est-ce qu'on peut s'entraîner à être en privation de sommeil? Est-ce que donc notre organisme va mémoriser les effets? Ou est-ce que ça sert strictement à rien? Et au contraire, il faut emmagasiner un maximum de sommeil avant pour être le plus frais possible?
Ouais. Alors là, je pense que les spécialistes sont tous d'accord pour dire que il n'y a pas d'entraînement à la privation de sommeil pour mieux encaisser le manque de sommeil physiologique. Alors, je vais expliquer ce que je veux dire. C'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'est pas question de partir sur une épreuve d'ultra-endurance privée de sommeil parce que
tu vas vite comprendre.
On sera échauffé, entre guillemets, hein, si je peux utiliser cette analogie-là. Donc ça, c'est non. Il faut partir avec ses batteries pleines. Si tu veux partir longtemps avec ton téléphone dans la poche, t'as intérêt à ce qu'il soit chargé à fond. Et donc, là, nous, c'est pareil. On a une sorte de recharge à effectuer avant de partir pour une longue épreuve où on va décharger finalement notre propre batterie à nous. Par contre, s'entraîner, c'est-à-dire avoir des périodes et vivre la privation de sommeil bien en amont des épreuves qui sont des objectifs, par exemple, l'objectif de la compétition auquel on veut participer, s'entraîner va permettre en fait quand même de se connaître lorsqu'on est en privation de sommeil.
Et dans ce cas-là,
on va pouvoir
d'anticiper ses réactions, ses
comportements. C'est-à-dire acquérir l'expérience de faire de l'activité physique, mentale, peu importe, mais d'acquérir cette expérience en privation de sommeil. Et ça, c'est une vraie chose. À mon avis, c'est un vrai axe de progrès à faire dans les épreuves d'ultra-endurance, c'est-à-dire tester des choses, savoir à quelle heure du jour et de la nuit, finalement, j'ai des coups de pompe. Parce qu'en fait, c'est très reproductible. Et pour le coup, on pourra probablement savoir, dans une bonne stratégie, les utiliser pour pouvoir s'endormir vite, avoir un sommeil avec une bonne récupération, en tout cas, une récupération très efficace pour un temps d'investissement court. Ouais. Et donc, voilà, ça, la vertu de se mettre parfois en privation de sommeil, c'est celle-là, c'est-à-dire de savoir comment on réagit lorsqu'on est en privation de sommeil. Par contre, juste en amont des épreuves, non, là, il est clairement pas question de se mettre en privation de sommeil parce qu'on a besoin de toutes ces capacités dès le premier kilomètre de la course. Et le but est de manager ces capacités en fait jusqu'à l'arrivée de la course pour ne pas craquer et pas abandonner ou chuter ou quoi que ce soit.
Oui, parce qu'effectivement, ça provoque le sommeil, l'endormissement, la fatigue provoque des zigzags. En vélo notamment, ça peut être très, très compliqué en termes de sécurité. Mais par rapport aux phases du sommeil, moi, j'ai eu une discussion lors d'un enregistrement pour le podcast Ultra Talk avec Barbara Buatois, qui avait fait la Race Cross Américain en 2011, je crois, en vélo couché, et qui m'avait expliqué juste avant de partir, ou les semaines qui précédaient le départ, elle avait fait des études à l'hôpital sur le sommeil pour déterminer ces phases de sommeil dont tu vas nous parler ensuite. Mais c'est surtout de savoir à quel moment dans la journée elle devait dormir pour éviter les hallucinations dans la nuit. Et en fait, les résultats qui avait conclu qu'elle devait faire une pause sommeil à 17h pour éviter d'avoir les hallucinations dans la nuit.
Mmh. Oui, c'est tout à fait, hein, c'est intéressant. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'effectivement, on va chercher à déterminer les périodes dans lesquelles notre cerveau il est à quelle période en fait le cerveau va être capable de s'endormir le plus vite possible déjà. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des portes de sommeil. Et quand je parlais tout à l'heure de la sieste à 14h, là ça c'est une très bonne porte de sommeil. C'est-à-dire que du coup là on sent bien que le sommeil
arrive.
Notre cerveau il est prêt à s'endormir. On a une porte de sommeil qui s'ouvre et il suffit qu'on ait un oreiller ou du moins un endroit où on se sent en sécurité. Là du coup on s'endort tout de suite. Et des portes de sommeil, du coup, il y en a plusieurs dans la journée. Et c'est ça qui est intéressant à tester en fait aussi en amont des courses, c'est-à-dire je vais me rendre compte qu'il y a j'ai un coup de pompe. Moi personnellement, il est à 16h. Mon coup de pompe. Je sais pas pourquoi, je suis foutu comme ça. Mais j'ai pas forcément de gros problèmes à 14h. Par contre, à 16h, clairement, je prends toujours un coup de pompe. Donc mon cerveau, il avance pas. Là tout à l'heure, j'étais en réunion, j'avais du mal à être concentré, etc. Donc là, ça c'est une porte de sommeil qui s'ouvre. J'en aurai une probablement ce soir à 21h, 22h. Celle de 23h30 va sûrement m'endormir pour toute la nuit. Mais après, si je reste éveillé la nuit, du coup, je vais en ressentir d'autres. 3h du matin, je ne sais pas, 5h. Le lever du jour est souvent une bonne porte de sommeil. Et puis, en fait, on en a qui se succèdent comme ça dans la journée. Et ces périodes-là, elles doivent être connues par les ultra sportifs, parce qu'en fait, c'est les moments qui sont privilégié pour pouvoir s'endormir vite et avoir une récupération optimale. C'est-à-dire que si tu investis du temps dans ton sommeil quand tu t'arrêtes sur le bord de la route pour pouvoir aller dormir, il vaut mieux que tu dormes parce que du coup, le temps d'investissement, il doit être efficace, quoi. Donc, s'arrêter à ces périodes de porte de sommeil, c'est vraiment génial. Alors après, il y a plusieurs moyens de les déterminer. Moi, je suis pas sûr qu'on soit obligé d'aller à l'hôpital pour le faire. On peut par son expérience, moi j'accompagne pas mal de sportifs comme ça, c'est-à-dire que du coup on fait des nuits blanches et puis donc on peut la faire à vélo ou à pied, hein, c'est pas un problème. Et puis on va chercher on va se mettre cette sortie, cette nuit blanche, ce 24 heures là, avec l'objectif d'être attentif à ses sensations, et on va noter tiens là à cette heure là j'ai un coup de pompe. À cette heure-là, j'ai un coup de pompe. Et dans ce cas-là, on peut se cocher des cases sur un calendrier, en tout cas, enfin sur les 24 heures de la journée, on peut se cocher des cases et dire, tiens, c'est mes moments privilégiés. Et ça peut participer du coup à la stratégie qu'on peut avoir en course.
Alors c'est intéressant, c'est ces portes de sommeil dont tu parles, c'est pour rentrer dans le sommeil pour s'endormir. Et à l'opposé, les portes de sortie du sommeil. Je te pose cette question puisque quand on fait de l'ultra, on ne s'endort pas sans mettre une alarme. En tout cas, pendant une épreuve, on ne se dit pas « je m'endors » et puis bah, « je me réveillerai quand je me réveillerai ». Ça n'arrive pas. Ou alors si ça arrive, le réveil va être en sursaut. Mais moi, j'ai l'exemple de Christopher Strasser, qui est un cycliste, ultra-cycliste autrichien, qui est un monstre physiologique, qui est capable, qui a le record aujourd'hui, puisqu'il a parcouru pas loin de 1100 km en 24 heures sur un vélo, qui traverse les États-Unis aujourd'hui et qui a le record en 7 jours et 15 heures, c'est 5000 bornes, et qui, pendant ces 7 jours et 15 heures, ne dort que 5 heures. Donc il est à plus de 600 km par jour, en ne dormant pas plus 45 minutes par jour. Et il est accompagné dans son équipe d'une personne qui surveille quand il s'endort, surveille le mouvement de ses paupières, et en fonction du mouvement de ses paupières, le réveille au bon moment. Donc, est-ce que c'est la légende ou est-ce que c'est réel? C'est-à-dire que tu nous as parlé de cette porte d'entrée dans le sommeil, cette porte de sommeil, mais est-ce qu'il existe des moments optimums pour réveiller quelqu'un et optimiser le temps? Quelque part dans une course, il faut optimiser ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça?
Alors, je suis un peu étonné des 45 minutes dont tu parles, mais enfin, je vais essayer d'y trouver une explication.
Je ne te dis pas qu'il dormait 45 minutes à chaque fois, c'est en moyenne. En moyenne, il ne dormait pas par tranche de 24 heures plus de 45 minutes.
Oui, d'accord. Ok, j'ai compris. En fait, on a deux stratégies dans le sommeil. C'est soit d'utiliser des siestes courtes, donc là, qui vont être d'une durée de moins de 20 minutes, parce qu'elles t'empêchent de tomber dans un sommeil trop profond, duquel tu aurais beaucoup de mal à ressortir. Si tu mets un réveil à 40 minutes ou à 45 minutes, là, comme ce que tu me disais, c'est pour ça que j'ai un peu tiqué, c'est que pour le coup, tu t'endors très profondément. Et alors là, pour ressortir, c'est extrêmement difficile. Donc, ce n'est pas une bonne période pour ressortir du sommeil. On est dans le gaz et c'est vraiment très, très difficile. D'ailleurs, on a du mal à entendre son réveil, ou du moins, si on n'a pas quelqu'un qui nous secoue, là, c'est pas bon. Et puis après, l'autre stratégie qu'on va avoir, c'est d'avoir une sieste qui va boucler peut-être un cycle complet. Donc, il existe des cycles de sommeil qui durent chez un individu normal aux alentours de 90 minutes. On a l'habitude de dire ça, hein, une heure et demie. Et en fait, ce cycle de sommeil se termine en théorie par une phase de sommeil qu'on appelle sommeil paradoxal, REM sleep en anglais, rapid eye movement sleep en anglais. Et donc, les mouvements des globes oculaires sont des caractéristiques de la dernière phase du cycle de sommeil. Et donc, si on a ce repère-là, s'il y a quelqu'un à côté qui peut avoir ce repère-là et qui finalement, une fois que les paupières ne bougent plus, et en fait, c'est le bon moment pour se réveiller. Parce qu'à la fin du sommeil paradoxal, on passe par une petite phase d'éveil naturel. Et en fait, ça, c'est le meilleur moment. Se réveiller naturellement, bah, c'est génial parce que en fait, notre cerveau, c'est lui qui nous donne le tempo. Il dit, bah, là, je suis prêt à me réveiller et donc c'est là que je peux redémarrer. Mais ça, alors autant tu dis, effectivement, on met toujours un réveil, et bien sûr qu'il faut mettre un réveil, je suis assez d'accord. Néanmoins, les meilleures siestes sont celles où on arrive à se réveiller sans le réveil.
Ouais.
C'est-à-dire que le cerveau se remet en mode éveil tout seul. Et dans ce cas-là, eh bien, du coup, on est prêt et on n'a pas ce phénomène qu'on appelle inertie de sommeil, ou on l'a moins, on va dire, de problématiques d'inertie de sommeil. Et donc, on a une bonne qualité de réveil.
Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que les cyclistes, hein, je pense aux cyclistes ultra-distance sur la Race Cross France, j'ai beaucoup d'anecdotes sur ça. Certains, en fait, arrivent en tout cas, trouvant un endroit pour dormir, que ce soit dans une chambre d'hôte, à l'hôtel ou dans un sas de banque. Et fatigué s'allonge, mais en fait, surtout, ne pas mettre ton réveil allongé, parce que tu t'endors en fait tellement t'es fatigué. Il faut mettre ton réveil avant de t'allonger, parce que si tu t'allonges, tu bascules et c'est terminé. Et aujourd'hui, je connais, c'est pour ça que c'est intéressant de partager avec toi, très peu de cyclistes, en tout cas sur les exemples que j'ai, qui s'endorment sans mettre ne serait-ce qu'une alarme pour les faire repartir, tellement ils sont épuisés. Moi, je connais un cycliste, il avait prévu de s'arrêter 3 heures. Bon, bah, finalement, il a dû rater son alerte ou il l'a éteinte. En tout cas, il s'est réveillé 8 heures après, quoi. Donc, il était paniqué, il est reparti sur son vélo. Mais c'est énorme de pouvoir dormir 8 heures, d'avoir ce luxe de dormir 8 heures. Et c'est pour ça que beaucoup mettent probablement des alertes alors qu'ils sont en phase de sommeil profond et que ça doit être très douloureux, voire traumatisant de sortir. Mais si tu pouvais justement nous expliquer les phases du sommeil, quelles sont-elles ?
Alors, on s'endort quand on va prendre le sommeil normal, hein, celui qu'on va avoir ce soir, je l'espère en tout cas pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on va s'endormir dans le sommeil à ondes lentes, c'est-à-dire que c'est notre activité, l'activité des réseaux de neurones, en fait, va se ralentir et puis jusqu'à se synchroniser. Donc, on a tout un tas de réseaux de neurones qui vont se mettre à se synchroniser dans un mode d'activité très lent. Et donc, c'est le sommeil à ondes lentes. Et puis, donc on va avoir une espèce de plongée comme ça vers le sommeil lent profond, qui est le sommeil dans lequel on va avoir des sécrétions hormonales extrêmement importantes, en particulier l'hormone de croissance. C'est très important pour les sportifs, qui est une hormone anabolisante, donc qui va réparer les tissus, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. On va avoir aussi dans cette phase-là, en fait, un très bon nettoyage, hein, je disais tout à l'heure, des toxines qui sont libérées pendant l'éveil. Donc, ça, c'est le premier type de sommeil qu'on va voir et qui va durer. Le sommeil à ondes lentes va durer aux alentours de 70 minutes, 60 minutes, 70 minutes. Alors, le sommeil profond va occuper au total une trentaine de pourcents, ou 25%, en fait, en tout cas, d'un cycle de sommeil. Et puis après, donc, on va avoir cette petite phase de sommeil paradoxal qui, elle, va contribuer, en fait, je dirais, à retracer un peu les autoroutes des connexions de neurones. Donc, c'est une autre fonction, on va dire. Donc sommeil à ondes lentes d'une part, sommeil paradoxal d'autre part, et puis quand on aura fait ça, on aura fini un cycle de sommeil et on va avoir une petite phase d'éveil. Alors si c'est en plein milieu de la nuit, on va repartir pour un deuxième cycle, re-sommeil à ondes lentes et re-sommeil paradoxal, finir un deuxième cycle, etc. Dans une nuit normale, on va enchaîner 5 ou 6 cycles qui vont tous être composés de sommeil à ondes lentes et de sommeil paradoxal. Par contre, ce qu'on remarque quand on est dans des privations de sommeil extrêmes, et moi, ce que j'ai déjà enregistré avec des électroencéphalogrammes à l'arrivée de courses à la voile en particulier, c'est que cet endormissement, d'une part, il peut être accéléré, donc ça, c'est-à-dire qu'on tombe plus vite dans du sommeil profond. Ce n'est pas tout le temps très flagrant, mais globalement, c'est un peu la tendance. Et puis, d'autre part, on va avoir des fois un cerveau qui ne sait plus trop s'il s'endort, s'il doit s'endormir en ondes lentes ou en sommeil paradoxal. C'est-à-dire que la privation de sommeil est telle que finalement, les besoins physiologiques
sont un peu perdus, en fait. Ils ne savent pas quelles sont les priorités,
voilà, c'est ça ? C'est un peu perdu, voilà. Alors, la première fois que j'ai enregistré ça, d'ailleurs, j'ai été voir des spécialistes du sommeil, des médecins, parce que du coup, je me dis, mais je n'arrive pas à lire ce tracé-là, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas. Et en fait, on m'a dit que c'était un near miss, c'est-à-dire un acte manqué, c'est-à-dire que le cerveau, en fait, ne sait plus trop dans quel état il est et comment il doit s'endormir. Donc ça, c'est assez caractéristique probablement de la privation de sommeil extrême, hein, et de l'endormissement extrême, je dirais. Voilà. Mais enfin, globalement, ce qu'on doit s'attendre à avoir, c'est du sommeil à ondes lentes, du sommeil profond, puis sommeil paradoxal et des petits micro-éveils pour finir un cycle, et les cycles vont s'enchaîner.
Et donc, plus les cycles s'enchaînent, plus tu es bien reposé, en fait, c'est un peu ça.
Oui, exactement. Alors, on peut imaginer le sommeil comme une sorte de cocotte minute, c'est-à-dire que quand on est éveillé, on met la cocotte minute sur le feu, puis du coup, on a beaucoup de pression. Alors, quand la pression, elle est hyper importante, la cocotte minute, elle commence à siffler un peu parce qu'elle dit là, attention, on aimerait bien dormir à trop de pression. Donc, nous, on est pareil, on a trop de pression de sommeil, il faut qu'on aille dormir. Et quand on va dormir, on ouvre la soupape. C'est-à-dire que là, la vapeur, notre pression de sommeil se dissipe. Et c'est un peu comme la cocotte minute. On ouvre la soupape, la vapeur se dissipe. Mais si tu as déjà fait ça, que tu as déjà ouvert la soupape d'une cocotte minute, tu vois bien que dès que tu l'ouvres, en fait, il y a une énorme pression qui sort. Et puis, au fur et à mesure du temps, la vapeur, en fait, continue de sortir, mais de moins en moins.
Ouais,
le sommeil, ça marche exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'au début, et c'est pour ça que les siestes sont assez efficaces, parce que la pression de sommeil va se dissiper très fortement en début de sieste et au début du sommeil. Puis après, hop, ça va être un petit peu moins efficace. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas besoin, hein, mais ça sera un petit peu moins efficace. Donc, plus ça va aller dans la nuit, bah, moins on aura de pression, nous aussi. Et donc, on aura une grosse récupération sur des premiers moments du sommeil. Et enfin, on complétera finalement avec la fin du sommeil.
Et on va parler côté sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à des sportifs qui veulent faire des ultras, que ce soit le trail, le vélo, la voile ? Ça serait de répartir peut-être des pauses de sommeil de 15-20 minutes dans la journée et de non pas d'aller au bout du bout du bout, parce que la grande mode, et moi sur les différents réseaux sociaux, j'avais alerté sur ça, c'est qu'à un moment donné, la mode des sportifs ultra était de ne pas dormir. Voilà. C'était devenu presque valorisant de dire bah, « j'ai pas dormi pendant 2 nuits, j'ai pas dormi pendant 3 nuits » et moi je me suis permis, avec l'expérience que j'ai dans l'ultra, de dire « attention, un, c'est pas tout le monde qui est capable et deux, ça, c'est un vrai danger pour sa propre sécurité, celle des autres, parce que t'es plus du tout lucide ». Donc pour un aspect sécuritaire, quel conseil toi tu pourrais donner aux sportifs qui vont se confronter à des épreuves d'ultra, qu'ils aient d'expérience ou pas?
Ouais, bah là, tu touches un point qui est fondamental. Hein. Il y a aucun sport, de toute façon, aucune passion qui mérite qu'on se casse la gueule dans un fossé et qu'on se blesse.
Ça, c'est quand ça se termine bien.
Je voulais pas être trop critique. Non, mais on est d'accord. Moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu ça dans la tête. C'est la priorité. Ensuite, on parle de performance. On est en sécurité et ensuite, on peut parler de performance. Bon, donc, c'est un point qui est fondamental. Moi, je trouve que dans certains sports, alors les voileux ont dépassé hein, déjà ça, c'est-à-dire que les voileux, c'était un peu ça dans les années 90-2000. Bon, il y a une dimension technologique hein, aussi, mais les pilotes automatiques n'étaient pas aussi bons probablement que maintenant, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu la culture du gros bras, quoi, et où il y avait aussi un peu de bluff. Au passage,
bien sûr,
c'est-à-dire qu'on disait que ouais, fallait pas dormir, et en fait, peut-être qu'ils dormaient, mais enfin, globalement, les croyances vis-à-vis de ça étaient à mon sens quand même importantes, et elles commencent à être maintenant c'est derrière, c'est-à-dire que beaucoup de marins, les meilleurs marins aujourd'hui, ont très bien compris qu'en fait, il fallait pas se mettre, fallait pas aller au bout de j'ai le mot en anglais, pas au bout de sa vie, en tout cas, pour pouvoir rester quand même un minimum performant. Donc ça, je trouve qu'en ultra, il y a encore un peu, en course à pied, peut-être en cyclisme, il y a encore un peu cette culture-là.
On est dans cette période-là. On est dans cette période-là, à celui qui va dormir le moins, très clairement.
Voilà. Alors que franchement, il y a beaucoup mieux à faire maintenant, c'est-à-dire probablement d'utiliser des portes de sommeil dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir manager sa fatigue sur du long terme, c'est-à-dire en être vraiment maître, si tu veux. C'est-à-dire que si tu vas au bout, tu n'es plus maître de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu vas avoir des attaques de sommeil, hein, ça s'appelle comme ça aussi.
Moi, j'appelais ça des coups de sommeil. C'est terriblement, et ça a duré. Moi, j'avais identifié, ça a duré pendant 20 minutes. Et pendant 20 minutes, tu as le sommeil qui ne te lâche pas et qui tu as des gros coups de sommeil comme ça qui arrivent où tu as des phases d'endormissement terribles. Et pour lutter contre ça, c'est traumatisant. C'est traumatisant.
Voilà. Donc, pour moi, si tu veux, c'est un peu comme si je reprends, alors là, je vais quitter ma cocotte minute, mais je vais prendre le téléphone portable. Hein, c'est comme si tu travailles avec 2% de batterie. Enfin, je veux dire, t'es pas serein, quoi. Tu vois. En fait, pour moi, il faut rebrancher un peu de temps en temps, de manière à rester avec une marge de sécurité.
C'est un très bel exemple, d'ailleurs. C'est un très très bel exemple.
Ouais. Et donc, pour moi, c'est de bien identifier les portes de sommeil, de manière à pouvoir les utiliser, gérer sa batterie en fait au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est une vraie stratégie qu'on doit avoir à long terme. Alors, c'est ça que je voulais dire, c'est que on a évidemment la dimension physiologique. Donc là, je parle des portes du sommeil, ça veut dire qu'on s'écoute et puis qu'on va utiliser notre propre physiologie. Alors ça, c'est de la poésie parce que en fait, quand on est sur un vélo, quand on est en course à pied ou quand on est sur un bateau, généralement, les coups de pompe, ils arrivent pas au bon moment. C'est-à-dire, soit on est dans un col, soit il fait pas beau, soit il y a pas de quoi s'arrêter, on n'est pas dans de bonnes conditions. Donc, c'est un peu tout l'art du sportif, là, du coup, d'arriver à avoir cette stratégie physiologique en face de la stratégie que je vais dire environnementale, c'est-à-dire de son environnement de course. Il faut arriver à avoir à faire matcher les deux. Et donc ça, je dirais qu'une course ne ressemble pas à une autre par rapport à ça.
Ouais, très clairement.
Autant la physiologie est relativement stable, autant, à mon sens, le dénivelé de la course, le profil de la course et ses particularités va faire que on va devoir adapter un peu sa stratégie de gestion de sommeil.
Et qu'en est-il de l'après-course ? C'est-à-dire quand tu fais une course d'ultra qui dure plusieurs jours, tu as une dette de sommeil qui est juste incroyable. Donc, dès que tu t'arrêtes, tu t'endors sur ta pizza, hein, très clairement. Derrière, l'aspect physiologique, le système du corps humain, tu penses que les je ne sais pas si on peut dire des séquelles, mais en tout cas, il faut combien de temps ? Déjà, est-ce que tu peux récupérer une dette de sommeil, ça, tu vois ? Est-ce qu'on récupère le sommeil ou est-ce que tu le récupéreras jamais ? Il faut juste te remettre à jour sur tes heures de sommeil. Et au bout de combien de temps tu peux retrouver, moi, sur les différentes épreuves que j'ai pu faire ? Et il m'arrive encore parfois la nuit, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, peut-être que tu pourrais répondre, à 3h30 du mat, très régulièrement, j'ai un agitement. C'est-à-dire que je me réveille et j'ai vraiment beaucoup de mal à retrouver cette porte du sommeil. Donc là, c'est parfois très compliqué, mais combien de temps l'organisme revient dans un rythme régulier ? Si tu respectes bien évidemment tes phases, hein, tu ne fais pas les nuits blanches encore derrière, mais c'est quoi ? C'est une semaine, quelques jours, 15 jours ? C'est personnel.
Alors,
peut-être ?
Bonne question. Tout dépend déjà de la durée de la privation de sommeil, hein, parce que forcément, tu fais une nuit blanche, ce n'est pas du tout la même chose que si tu enchaînes 4 nuits sur ton vélo. Ce n'est pas forcément très facile de répondre directement à cette question-là. Ce qu'on voit quand même, c'est que y a deux. Le problème du sport, c'est que tu as deux dimensions. Tu as la dimension de la fatigue liée au manque de sommeil, donc qui est clairement la dette de sommeil que tu dois rembourser. Donc oui, ça se rembourse. Et la seule solution, bah, c'est de dormir.
C'est de dormir.
Pas photo. Donc là, il faut se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir dormir. Et puis après, tu as l'autre dimension, où parfois tu peux avoir des douleurs musculaires qui peuvent perturber ton sommeil, des douleurs musculaires ou articulaires. Hein,
exact.
Si tu as mal aux pattes, tu te retournes dans ton lit, c'est pas facile. Donc là, on voit bien que le rebond de sommeil attendu, c'est-à-dire l'augmentation du sommeil juste après la privation, juste après la course, bah, finalement, des fois, il a un peu de mal à venir parce que on a des perturbations physiques pendant le sommeil. Et puis après, il y a un aspect de fatigue centrale, c'est-à-dire que aussi la perception que tu vas avoir de ton état, c'est-à-dire la fatigue que tu vas ressentir après un effort de si longue durée, elle n'est pas uniquement liée au manque de sommeil, tu vois. Donc, je dirais que le manque de sommeil, si tu fais correctement les choses, alors il faut aller travailler aussi après les épreuves, donc il y a la famille, il y a le travail, il y a aussi notre vie de tous les jours, donc on ne peut pas faire que dormir, l'idéal c'est évidemment de prendre des vacances.
Quand je suis revenu des États-Unis, j'ai repris le travail 48 heures après. 48 heures après, j'étais au travail, et bien pendant 15 jours, j'étais obligé, en fait je ne mangeais pas pendant ma pause déj classique, mais j'allais dormir, en fait. J'allais sur les bancs publics. Je travaillais dans un centre commercial. Je sortais dehors et le premier banc qui était disponible, je m'allongeais, je dormais pendant 45 minutes.
Bah ouais, et puis en plus, tu devais avoir l'effet jet lag aussi du retour, là, qui
te fait terrible.
Enfin, t'as tout cumulé. Après, je dirais globalement que le manque de sommeil va être récupéré en une semaine, 10 jours, même en ayant une activité professionnelle qui te fait te lever le matin, t'occuper des enfants ou du moins avoir ta vie pro et perso normale. Après, qu'en est-il de la fatigue centrale, de la fatigue physiologique aussi profonde que tu vas avoir accumulée due à l'activité physique prolongée? Ça, c'est un autre sujet. Là, il faut a priori beaucoup plus de temps et on voit encore des traces hein, dans les épreuves d'ultra en course à pied en particulier. On voit encore des traces de fatigue au bout de 15 jours, même avec des comportements de récup plutôt bien réfléchis et bien menés. Tu vois, donc je dirais que il faut quand même un peu de temps. C'est pas hyper facile de répondre précisément, mais ça prend du temps, bien évidemment.
J'ai peut-être une autre question qui va être en complément de celle-ci. C'est, tu vois, hier j'étais sur un enregistrement également d'un épisode avec Camille Bruyat. Camille Bruyat, c'est une femme qui fait du trail et qui a fait deuxième de l'UTMB cette année chez les femmes, en prenant le meilleur temps français. On échangeait autour justement du fait que le corps puisse se régénérer, Camille fait du yoga, fait beaucoup de yoga, et m'expliquait qu'elle ressentait vraiment dans la saison des moments, des phases où elle avait besoin de ralentir sur son entraînement pour que son corps puisse se régénérer. Je pense que ça, c'est une vraie force chez un sportif qui est capable d'écouter son corps sur ça. Parce que sinon, on a toujours tendance à vouloir s'entraîner fort pour être performant alors que le corps se fatigue, très clairement. En tout cas, aujourd'hui, elle a 30 ans. Elle est maintenant sur le devant de la scène au niveau international, en faisant deuxième à l'UTMB. Eh bien, elle ne se sentait pas de faire deux ultra-trails longs dans l'année. Pour elle, son corps ne le supportait pas, et elle avait des exemples à me donner, hein, de ses concurrentes qui essayaient d'en faire deux, mais le deuxième ne passe pas. Est-ce que tu penses que ça serait pareil dans l'ultra-distance? Moi, je connais certains sportifs qui enchaînent une épreuve par mois. Je ne dis pas qu'ils sont performants, mais en tout cas, ils sont là. Ils enchaînent une épreuve par mois. Est-ce que tu peux réellement récupérer entre deux épreuves comme ça, où tu vas quand même te priver de sommeil à chaque fois, deux voire trois nuits, rarement plus quand même, hein, mais est-ce que tu peux réellement récupérer?
Alors oui, au sujet du sommeil, oui, je pense que tu peux. Je dirais que la dimension sommeil est plus facilement récupérable que la dimension physiologique. Des aspects centraux, hein, d'activité sympathique, parasympathique. Donc, le système nerveux, lui, semble plus impacté plus longtemps, avec aussi le besoin de rééquilibrer tout un tas de processus qui ont été mis à mal pendant une course aussi intense que ça. Donc, vraiment, je voudrais vraiment qu'on fasse la distinction, en fait, des deux.
Hein, mais c'est totalement ça, en fait. Hein. C'est totalement ça. Tu sais, moi, je le dis à chaque fois, mais les États-Unis, j'ai pas touché mon vélo derrière pendant un an.
Ah oui, oui.
Parce que le système nerveux était fatigué, je pense, beaucoup plus que la fatigue que j'avais retrouvée.
Enfin, par contre, une chose est certaine, hein, c'est que s'octroyer des temps de sommeil suffisants va probablement quand même permettre d'accélérer finalement cette récupération. Je parlais tout à l'heure du sommeil lent profond et de sécrétion de certaines hormones. Pendant qu'on dort, il se passe tout un tas de choses, et c'est extrêmement important de prendre soin, en fait, de son sommeil si on veut récupérer vite. Ça participe très clairement à la récupération, et plus tu vas prendre soin de ton sommeil, plus tu vas récupérer vite. J'en suis persuadé, ça, par contre.
Et tu parles d'hormones, justement. Parle-nous de cette hormone du sommeil qui est la mélatonine. Quel est son rôle?
Alors, la mélatonine, c'est donc une hormone qui est sécrétée par le noyau suprachiasmatique, un petit noyau qui est dans le cerveau. On dit que c'est l'hormone du sommeil, c'est-à-dire que elle est sécrétée dans la période nocturne. Elle est pulsée en début de nuit jusqu'en fin de nuit, avec un pic aux alentours de 3-4 heures du matin. Et c'est elle va contribuer finalement à mettre en route des mécanismes de sommeil. Donc elle va mettre au repos, entre guillemets, pour être simple, hein, elle va mettre au repos les neurones. Donc c'est quelque chose qui est totalement indépendant de mon histoire de cocotte minute dont je parlais tout à l'heure, qui elle aussi, quand on a trop de pression, bah du coup demande à dormir. Quand la mélatonine est sécrétée, elle aussi demande à dormir. Les deux, s'ils sont bien en phase, et bien du coup vont contribuer à un bon sommeil et forcément à une bonne qualité d'éveil derrière. Alors, c'est pour ça que les gens qui travaillent la nuit, par exemple, du coup, ils sont désynchronisés, c'est-à-dire qu'on a un problème de confrontation des deux systèmes, qui fait qu'on a plutôt envie de dormir la nuit, et puis qu'on a du mal à dormir le jour. Donc, la mélatonine, du coup, elle est sécrétée naturellement. Il faut en prendre soin aussi, parce que du coup, elle contribue à un sommeil de bonne qualité. Et je pense que, si on arrive à respecter une hygiène de sommeil correcte en se couchant à des horaires normaux, et puis en ayant un environnement de sommeil pas trop lumineux et de bonne qualité, bah du coup la mélatonine, on n'a pas besoin de prendre, ce que j'ai vu à la pharmacie l'autre jour, le médicament ou la truc à la mélatonine. Bon, voilà, je pense que ça c'est un mal de notre siècle, hein, de
bon,
vouloir
bon
croire
marketing.
Que finalement des médicaments vont mieux gérer finalement que nos fonctions naturelles. Voilà, donc la mélatonine, c'est savoir que la suppression de mélatonine, ou du moins le manque de mélatonine, va avoir un impact majeur sur la santé, en particulier sur les défenses immunitaires. C'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure de défense immunitaire, mais ça, c'est un point d'impact extrêmement important, c'est-à-dire que le manque de sommeil va avoir une influence majeure sur la défense immunitaire, et ce qui fait que c'est pour ça qu'on voit aussi des gens qui ont, à la suite de grosses privations de sommeil, des rhumes, des crèves, des grippes, des gens qui sont plus sensibles en fait aux petits virus qui passent, et on voit tout de suite le lien qu'il peut y avoir avec ce qu'on vit en ce moment. C'est vrai que prendre soin de son sommeil permet quand même d'avoir des défenses immunitaires qui sont aussi costauds.
Et on arrive en fin de podcast. Quel conseil, Rémi, tu pourrais donner aux sportifs, ou non d'ailleurs, qui met plus particulièrement les sportifs, parce que je pense que c'est les personnes qui écoutent le podcast, mais quel conseil tu pourrais leur donner autour du sommeil d'avant-épreuve et du sommeil difficilement parfait, mais pendant l'épreuve, et peut-être même après d'ailleurs.
Alors déjà, bon, évidemment, il y a deux populations hein, dans ce que tu m'évoques là, puisqu'on a des gens qui vont se mettre en privation de sommeil pour leur loisir, et puis d'autres pas. Globalement, je dirais que déjà, il faut avoir globalement, il faut avoir une bonne hygiène de sommeil. C'est-à-dire que pour le coup, il faut prendre soin de son sommeil. C'est pas du temps de perdu. Déjà, il faut casser ces croyances-là. J'entends encore trop souvent dire que le sommeil, c'est du temps de perdu. Et puis que si on dort moins, c'est pas grave. Comme ça, on a le temps de faire plus de choses. Mais en fait, non, ça peut pas marcher. Donc, premièrement, prendre soin de son sommeil, prendre soin de son hygiène de sommeil. Deuxièmement, quand on part pour une épreuve, c'est d'avoir une stratégie. La première règle de la stratégie, c'est de faire ce que les Américains vont appeler banking sleep. Donc, ça veut dire qu'il faut banquer, hein, ça veut dire qu'il faut engranger tout ce qu'on peut de sommeil. Alors, on peut pas faire déborder, enfin, notre réservoir ou notre chargeur de téléphone. Là, on parlait de ça tout à l'heure. Notre téléphone, quand il est à 100%, il est à 100%. Point. Il y a jamais 102% ou 110% inscrit sur notre téléphone. Donc déjà, c'est de partir avec une batterie à 100% rechargée. Donc il faut prendre soin de son sommeil bien en amont et là vraiment essayer d'avoir des temps de sommeil les plus longs possibles. Ça va nous permettre de partir dans de bonnes conditions. Et ensuite, la stratégie dont je parlais va devoir prendre en compte sa physiologie, les fameuses portes de sommeil dont on parlait. Donc ça, c'est pour moi, c'est extrêmement important de les connaître. De se connaître en fait d'une manière générale, et puis enfin de mettre ça en face de la stratégie de course pure, c'est-à-dire où est-ce que je serai lorsque mes portes de sommeil vont s'ouvrir. Dans ce cas-là, il faut qu'on aille peut-être anticiper des siestes, prendre un peu de repos avant, ou du moins s'attendre à avoir un coup de pompe pas au bon endroit et pouvoir éventuellement utiliser la porte de sommeil suivante. Et toujours avoir dans la tête que finalement, on ne doit pas être à plat de batterie avant la fin de l'arrivée de la course. Enfin, avant l'arrivée de la course. Si on est low batterie, ça s'appelle des hallucinations. Et du coup, là, on n'est plus bon à rien. Et pour moi, ça, c'est pas. Pour moi, ça, c'est. Maintenant, c'est de la préhistoire. Ça devrait être de la préhistoire dans les ultras. Ça ne peut plus être comme ça pour des raisons de sécurité et de performance, très clairement. Alors enfin, je dirais qu'il faut donc apprendre à utiliser les siestes. Il faut utiliser des siestes. Alors c'est vrai que les petites siestes, les siestes courtes, les power naps, les micro-siestes, enfin, on les appelle comme on veut, mais des siestes de 20 minutes sont quand même très efficaces dans la majorité des épreuves d'ultra-endurance. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et dans tout sommeil, à mon avis, il y a trois ou quatre règles qui vont permettre d'avoir un bon sommeil, ou du moins une sieste de bonne qualité. C'est un, dormir quand on en ressent le besoin. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est dormir en sécurité aussi. Pas dormir en haut d'un col quand il fait froid.
Très clairement. Ouais.
Hein, donc ça, c'est quand même important. La troisième règle, c'est d'être sûr de se réveiller. Ça veut dire qu'il faut soit qu'on mette un réveil qui va réveiller les morts, ou alors qu'on ait quelqu'un qui vienne nous secouer pour être sûr qu'on va se réveiller. Et la stratégie, la quatrième règle qu'on peut avoir dans certains cas, c'est d'avoir une stratégie sur la quantité de sommeil minimale qu'on doit avoir pour une course, parce qu'on ne va pas avoir besoin de la même quantité de sommeil global par 24 heures sur une course de une nuit ou deux nuits que sur une course forcément plus longue de 4-5 nuits. Et ça, il faut avoir une stratégie de départ. Dans ce cas-là, bon, on part avec un peu plus de billes que ceux qui n'ont pas de stratégie du tout, à mon avis.
Eh bien, écoute, un grand merci Rémi pour ce partage. Tu as fait des parallèles avec la batterie qui sont très très parlants, avec le fait effectivement que la privation de sommeil est arrivée jusque aux hallucinations et de la préhistoire. Je pense que c'est tout à fait dans le thème des différents échanges que j'ai pu avoir avec les cyclistes. Beaucoup se posent des questions, beaucoup se disent, mais les organisateurs devraient parfois même arrêter ou imposer l'arrêt aux participants, ne serait-ce que 2 heures par jour, pour avoir la garantie qu'ils se reposent. Alors moi, je suis aussi cycliste un peu dans l'extrême et organisateur, et je ne suis pas favorable à demander aux participants qu'ils s'arrêtent 2 heures pour pouvoir dormir sur tranche de 24 heures. C'est comme demander au navigateur du Vendée Globe de jeter l'ancre 2 heures par jour au milieu de l'océan. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Donc c'est aussi aux coureurs de se prendre en charge et de trouver des solutions et de bien se connaître et d'être responsable vis-à-vis de leur propre sommeil et de leur sécurité.
Ouais, je crois que alors ça pourrait être valable si en fait tout le monde avait envie de dormir à peu près sur commande. Tu l'as dit, on s'endort assez vite quand on est en très très forte privation de sommeil. Mais finalement, tu pourrais, si tu faisais ça, tu risquerais d'imposer en fait des périodes de sommeil au moment où c'est pas opportun. C'est enfin, important. Je sais pas, faudrait
réfléchir à ça.
Je crois que la principale vertu du message qu'on est en train de passer là, c'est clairement que il y a des stratégies à aller chercher et de la responsabilisation ou de la responsabilité qui tient de la responsabilité en fait finalement des participants. Et donc mon rôle c'est ça, moi je fais que ça, c'est-à-dire du coup de faire de l'éducation aux problématiques de manque de sommeil et puis d'essayer de trouver les meilleures stratégies pour les individus qui viennent me voir pour faire ça. Donc je trouve que ça va dans le bon sens de dire ça, c'est-à-dire connaissez-vous,
tout à fait.
N'allez pas trop loin, ça ne fera pas de vous un héros de ne pas dormir en fait. Le héros, c'est celui qui arrive au bout dans de bonnes conditions, évidemment, le plus vite possible, c'est sûr.
Exactement, je suis tout à fait en phase avec ça. Mais écoute, un grand merci Rémi pour cet échange très très intéressant.
Merci de l'invitation.
Et puis écoute, au plaisir d'échanger à nouveau avec toi sur ce sujet. Merci beaucoup Rémi.
Avec plaisir, au revoir Arnaud. We'll be right back.